bienvenue dans l'instant classique. Radio Dynamo vous propose 30 minutes à l'écoute de la musique classique et de ses interprètes. C'est l'instant classique. Bienvenue dans l'instant classique, animé cette semaine par Dominique Cormeau. Bonjour Dominique.
Bonjour Romain.
Donc là, ce mois-ci, tu vas nous parler du 19e siècle.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du 19e siècle avec toujours le piano à l'honneur. Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Camille Saint-Saëns sont mes invités. Commençons par Beethoven. Dernier grand représentant du classicisme viennois, après Haydn et Mozart, il est précurseur du romantisme en musique. Son art s'est exprimé au travers différents genres musicaux. Son influence sur l'écriture pianistique est considérable. Dans ses 32 sonates pour piano, Beethoven place au premier rang ses interrogations, ses souffrances et ses joies. En 1801, à 31 ans, la comtesse Giulietta Guicciardi lui inspire une grande passion. Elle est âgée de 17 ans lorsqu'il la rencontre et devient son élève. Il lui dédie alors sa sonate opus 27 numéro 2, dite au clair de lune. Initialement intitulée sonate de la tonnelle du vivant de Beethoven, le surnom au clair de lune lui est attribué par le poète allemand Ludwig Rellstab en 1832, soit 5 ans après la disparition du compositeur. Cette sonate est la numéro 14 en do dièse mineur, écrite en 1801 pour le pianoforte en 3 mouvements. Tandis qu'il la compose, Beethoven réalise qu'il devient irrémédiablement sourd. Nous allons écouter le 3e mouvement, Presto Agitato. Ce dernier mouvement est empreint de liberté. Il est caractérisé par la tonalité sombre du do dièse mineur et un tempo très tendu. En outre, il est le plus long et le plus techniquement difficile de la sonate. L'écriture très pianistique fait un usage puissant des arpèges, des sforzando et des octaves. Cela confère à l'œuvre le sentiment d'une musique extrêmement puissante, voire violente. Elle contribue également à inspirer à ce mouvement le caractère à la fois passionné et inquiétant d'une tornade. Victor Hugo écrira à propos de Beethoven, je cite, « Ce sourd entendait l'infini ». Écoutons ce 3e mouvement de la sonate au clair de lune, au piano, Murray Peraya, pianiste et chef d'orchestre américain, établi au Royaume-Uni.
C'est parti. Thank you.
Ce troisième mouvement que nous venons d'écouter a été une source d'inspiration pour la fantaisie impromptue, également écrite en do dièse mineur par Frédéric Chopin. Oui, venons-en à présent à Frédéric Chopin, un des compositeurs majeurs pour piano de la période romantique. À sa mort, il laissera derrière lui plus de 200 œuvres musicales, ballades, concertos, études, impromptus, nocturnes, mazurka, polonaise, sonate. Fasciné par une certaine perfection héritée de Bach et Mozart, Chopin a inventé un mode poétique comparable à nul autre, ainsi qu'une manière unique de faire sonner le piano. L'œuvre de Chopin est romantique par l'audace de son écriture, mais également classique par sa pudeur et sa concision. L'un de ses secrets est son rubato et cette liberté de mouvement. Parmi ses œuvres, intéressons-nous à la première ballade en sol mineur. Chopin compose cette ballade en 1835. L'œuvre est tout à la fois joyeuse, lyrique, enflammée, romantique et nostalgique. Rien de surprenant. En effet, lorsqu'il la compose, Chopin, alors âgé de 25 ans, fuit sa Pologne natale, envahie par l'Empire russe du tsar Nicolas Ier. Cette ballade est dédiée au baron de Stockhausen, ambassadeur de Hanovre. Elle connaîtra un regain de popularité auprès du grand public à la sortie du film « Le pianiste » de Roman Polanski, dans lequel elle figure en bonne place dans la bande-son. Écoutons cette première ballade en sol mineur. Au piano, Maurizio Pollini, grand pianiste italien, disparu en 2024.
Thank you.
C'était donc la première ballade en sol mineur, composée par Frédéric Chopin en 1835, année de naissance du compositeur Camille Saint-Saëns, dont je vais maintenant vous parler. Camille Saint-Saëns est un pianiste, organiste et compositeur de la période romantique. Il se révèle très vite être un enfant prodige. À 10 ans, il donne son premier concert et fait sensation en interprétant le 3e concerto de Beethoven et le concerto numéro 15 de Mozart. Franz Liszt, impressionné par ses improvisations, décrira Saint-Saëns comme le plus grand organiste du monde. En 1874, Camille Saint-Saëns compose la danse macabre, inspirée d'un poème d'Henri Casalis. Ce dernier traduit très clairement par ces mots les morts sortant de leur tombe pour se mettre à danser. Saint-Saëns en fait un poème symphonique orchestral dans lequel la mort est représentée par un violoniste. Ce dernier, à l'intérieur d'un cimetière, vient, grâce à sa musique, réveiller les squelettes qui se mettent à danser frénétiquement. Cette danse macabre a été arrangée pour piano seul par Franz Liszt, puis par Vladimir Horowitz. Nous allons entendre le pianiste Alexandre Kantorov interpréter le morceau à partir de ces deux versions revisitées. Contrairement à la version orchestrale, la version pianistique apparaît ici beaucoup plus sombre. Noirceur et rage y sont perceptibles. Écoutons cette danse macabre de Camille Saint-Saëns. Au piano, Alexandre Kantorov, fils du violoniste réputé et chef d'orchestre Jean-Jacques Kantorov.
Thank you.
Merci Dominique pour cet instant classique sur le 19e siècle. Un beau voyage. Dans un mois, du coup, on se retrouve pour le 20e siècle, c'est ça?
Oui, ma prochaine émission sera consacrée au piano au cœur du 20e siècle. Maurice Ravel, Francis Poulenc et Darius Milhaud seront mes invités.
Merci Dominique. Dans un mois alors.
Oui, merci, à bientôt.
C'était l'instant classique sur Radio Dynamo. L'émission qui vous propose 30 minutes à l'écoute de la musique classique et de ses interprètes.